Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans RTL midi en ce vendredi 13 que l'on vous souhaite plein de bonheur. RTL midi, 90 minutes pour vivre en direct toute l'actualité, pour comprendre, pour commenter, vous le savez, c'est votre émission. Christelle, bonjour.
Bonjour à tous.
Vos appels nombreux attendus au 3210 sur tous les sujets qui vous intéressent et qui interpellent, vous êtes chez vous, vos messages aussi comme tous les jours sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Christelle, on commence par l'OM qui connaît son adversaire pour les demi-finales de la Ligue Europe.
Oui. Et on fait ouf sur la canebière puisque ce sera Salzbourg. C'est Arsenal qui hérite du gros morceau, l'Atlético Madrid. Nicolas Hulot lance un appel au calme à Notre-Dame-des-Landes pour éviter un drame. C'est un document RTL que vous entendrez dans un instant. Sur place, les affrontements continuent. La préfète donne un nouveau délai de 10 jours aux occupants de la ZAD pour régulariser leur situation. Troisième salve de grève à la SNCF. La direction comptabilise 22,5% de grévistes à la mi-journée, un chiffre qui continue de baisser. Laurent Berger de la CFDT salue de premières avancer dans les négociations. Pourrait-on envisager le début du commencement d'un embryon de sortie de grève? Nous verrons ce qu'en dit l'autre syndicat réformiste, l'UNSA. Dans RTL Midi aussi, il y aura bien un procès. 16 ans après le meurtre d'Élodie Kulik, Willy Bardon va être envoyé aux assises. Nous évoquerons aussi de nouveaux soupçons sur Nordal Le Landais concernant la disparition, cette fois d'un homme de 48 ans dans la Drôme. Les 80 km/h sur les routes secondaires seront bien appliquées au 1er juillet. Seule concession d'Emmanuel Macron, une expérimentation de 2 ans. Les Antilles mobiliseront ce week-end. Parlons-en tous ensemble. Nous vous attendons 32-10. La météo de ces nouveaux départs en vacances. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Et toujours cette instabilité.
Pas de changement. C'est toujours très instable avec des averses un petit peu partout cet après-midi. Et encore une fois, ces averses seront fortes, parfois orageuses sur les régions de l'Ouest et près du Golfe du Lion. Et ces averses devraient même se renforcer dans la soirée sur l'Hérault avec encore un petit peu neige à partir de 1800 mètres sur les Pyrénées, 1800 mètres sur le sud des Alpes. Et là, le risque d'avalanche est toujours très marqué de 4 sur 5. Ce sera quand même un petit peu plus calme cet après-midi près des frontières de l'Est avec quelques éclaircies et de la douceur. Jusqu'à 19 degrés cet après-midi à Bordeaux, 17 à Lille, à Dijon et Nancy, 16 degrés à La Rochelle et Biarritz et 13 degrés au Havre.
Et Patricia Charbonnier, toute la météo détaillée, rien que pour vous, ce sera juste avant 13h. Après 13h, une histoire, un jour sur la Terre, sans oublier Laurent Gérard à 13h50. Pour le meilleur et pour le rire. La question du jour sur RTL.fr concerne donc l'OM en demi-finale de la Ligue Europe. On le sait, contre Salzbourg, Marseille peut-il le faire, aller au bout, remporter la compétition? Vos avis nous intéressent. Vous dites oui à 39%, 45% de non. Vous nous rejoignez pour en parler. Vos appels au 3210 et une prise de température avec Lucas. Lucas, auditeur de Beauvais.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bien sûr, quand ça peut aller au bout, avec l'ambiance qu'on a vue, avec l'envie qu'ils ont donné hier, c'était incroyable. On n'a jamais eu de match de Coupe d'Europe aussi fantastique depuis des années en France. Donc oui, il y a un vrai engouement, surtout à Marseille. Personne n'a peur de rien. On a vu une équipe hier qui s'est transcendée. Il y a des joueurs, on n'imaginait même pas qu'ils étaient capables de faire des choses comme ça. On retrouve un Payet incroyable, Bounassar qui fait un début de match, après il se blesse, mais c'était incroyable. Non, il y a vraiment le ferveur à Marseille qui est dans aucun des 3 autres clubs qui restent actuellement en Ligue Europa.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Eh bien, direction Marseille, justement, complètement fada, titre l'équipe ce matin après la qualification de l'OM pour les demi-finales et un 5-2 spectaculaire face à Leipzig. L'OM connaît donc cette fois son adversaire pour la suite. Et Hugo Hamelin, Salzbourg, c'est quand même le meilleur tirage possible.
Oui, effectivement. Hein. Si vous faisiez le sondage ici, ce serait 99%, à mon avis, de chances d'aller jusqu'au bout. On va être honnête, c'est le tirage le plus facile. C'est le moins clinquant aussi pour les amoureux des belles affiches. Salzbourg, c'est le champion en titre et le leader actuel du championnat autrichien. Et c'est quasiment une vieille connaissance, puisque l'OM les avait affrontés au premier tour de l'Europa League pour un bilan d'une défaite et d'un match nul. Ça va donc être une confrontation compliquée en perspective, mais bon, c'est normal. C'est une demi-finale. À noter pour le clin d'œil, comme la psyche hier, Salzbourg appartient à la firme Red Bull.
Et les supporters avec qui vous venez de suivre ce tirage au sort, Hugo, ça les rend fada ou pas?
Alors, je ne sais pas si ça les rend fada, mais j'ai posé la question en tout cas à Andy et Julien. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ce tirage? Ces deux supporters lillois qui sont descendus voir le match de l'OM hier soir.
Salzbourg, c'est un bon tirage. Fallait éviter surtout l'Atlético Madrid, quoi, parce que c'était l'équipe qu'on redoutait, quoi.
C'est un bon tirage, oui. On a perdu en match de poule, hein, donc c'est pas fait. C'est loin d'être fait. L'inconvénient, c'est de se déplacer au match retour.
Ouais, avec ce match retour à l'extérieur, le 12e homme, le public du Vélodrome devra donc se mobiliser dès le match aller.
Merci beaucoup Hugo Hamelin dans la cité phocéenne. Nous comptons sur vous, sur vos appels dès maintenant au 32-10 pour revenir sur la rencontre d'hier soir et sur le futur. Évidemment, est-ce que Marseille peut remporter cette Ligue Europe 3-2-1-0, vos coups de fil dès maintenant, on dialoguera tous ensemble. Un mot sur le tirage à venir des demi-finales de la Ligue des Champions, c'est à 13h et ça se passe entre quatre clubs, le Real Madrid, la Roma, Liverpool et le Bayern Munich. Sachez aussi que le commentateur du match d'hier soir sur W9, Denis Balbir, est suspendu à titre conservatoire pour des propos déplacés tenus hors antenne, mais diffusés sur des réseaux sociaux.
Son silence était devenu assourdissant au cinquième jour de l'opération d'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, qui fait chaque jour des blessés côté gendarmes et côté zadistes. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, sort de son silence et c'est une exclusivité RTL de Serge Pueyo.
Simplement que tout le monde se calme. On peut faire vraiment une sortie par le haut. Je rappelle quand même que le gouvernement a pris une décision qui n'était pas acquise à l'avance, d'arrêter ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Bon, donc déjà, je pense que le combat que certains menaient est abouti. Donc à partir de là, maintenant, il faut se calmer, il faut revenir dans le droit chemin et puis ne pas mélanger les postures. Il y a visiblement quelques personnes qui sont simplement là pour en découdre et ils desservent quelque part l'enjeu, le thème qui sont censés appuyer. D'abord, il faut distinguer ceux qui sont simplement là pour en découdre de ceux qui sont là par sincérité intellectuelle. Voilà. Maintenant, il faut reprendre le dialogue parce que je suis certain qu'on peut achever ce sujet-là par un projet de territoire qui soit tourné vers l'agriculture de demain et peut-être même vers les modèles énergétiques également de demain.
Voilà, Nicolas Hulot au micro RTL de Serge Pueyo. Ce qui devait être évacué a été évacué. La préfète des Pays de la Loire a repris à son compte ce matin la formule d'Emmanuel Macron, tout en appelant les occupants de la ZAD, y compris les expulsés, à déclarer leurs projets agricoles d'ici le 23 avril. Une tentative d'apaisement, là aussi, alors que concrètement, les affrontements restent très violents. Nicolas Bobby, vous êtes sur place pour RTL.
6h30, les blindés de la gendarmerie repoussent les barrages sur la départementale 81, constituée de branches d'arbres, de tôles, avec des bonbonnes de gaz caché. Les zadistes sortent alors du bois, lancent cocktails Molotov et bombes incendiaires.
Dernière sommation ! On va faire usage de la force !
Sur un petit chemin, les militaires anéantissent un nouveau barrage enflammé et c'est le face-à-face avec les zadistes qui utilisent deux lasers, un vert et un rouge, en visant les yeux des gendarmes.
Arrêtez la guerre ! Arrêtez la guerre ! Arrêtez la guerre !
Arrêtez la guerre !
D'habitude, c'est magnifique ici. On voit les animaux, on se bat dans la forêt. Là, on est en train de faire la guerre dans une des plus belles forêts d'ici.
Bilan de la matinée, 5 gendarmes blessés, dont certains incommodés par les fumées nocives dégagées par les pneus en feu.
Reportage à Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Bobby.
L'affaire Kulik, à présent, il y aura bien un procès, sachez-le, 16 ans après l'enlèvement et le meurtre d'Élodie Kulik dans la Somme. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Amiens vient de décider de renvoyer devant les assises l'un des principaux suspects, Willy Baradon. Thomas Proutot, expliquez-nous.
Oui, c'est une décision capitale pour la famille de la jeune banquière de Péronne, violée et tuée une nuit de janvier 2002, alors qu'elle revenait en voiture d'une simple soirée à Saint-Quentin. Il avait fallu 10 ans pour qu'un premier ADN soit identifié dans un préservatif abandonné, mais ce suspect était mort dès 2003. C'est dans son entourage que les enquêteurs ont identifié Willy Baradon, membre du même club de 4-4. Les magistrats sont convaincus qu'il était présent le soir du crime. Écoutez le soulagement du père d'Élodie, Jackie Kulik.
Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, j'ai poussé un grand ouf de soulagement. Vous savez, ça fait quand même 16 ans que j'attends. Là, je commençais vraiment à me poser des questions et enfin, oui, enfin. Justice sera rendue à Élodie.
C'est à elle que vous pensez aujourd'hui ?
Tout à fait, vous savez, j'y pense tous les jours, mais bien plus aujourd'hui qu'hier encore, hein, parce que c'était vraiment une nouvelle inespérée.
Le procès d'assises devrait se tenir d'ici quelques mois, même si les avocats de la défense peuvent encore saisir la cour de cassation. Alors, Willy Baradon nie les faits, sa voix aurait été reconnue par des témoins dans le dernier appel passé aux pompiers par Élodie Kulik le soir de sa mort. La famille de la jeune femme s'accroche à un espoir, des aveux au procès 16 ans après le meurtre.
Thomas Proutot, Nordal Lelandais serait-il impliqué dans une troisième disparition ? C'est ce que les enquêteurs devront établir. Après Maïlis et le caporal Arthur Noyer, ils s'intéressent désormais à Éric Forêt, 48 ans, disparu le 16 septembre 2016 dans le nord de la Drôme. Un lien aurait été trouvé entre lui et des proches de cet homme. Serge Pueyo a rencontré son compagnon.
Ce serait un parent d'Éric et un certain Julien Fauré qui figurerait sur le carnet de Le Landais. Mais moi, j'en sais pas plus. C'est secret d'instruction. Même mon avocat m'en dit pas plus.
Mais pour vous, le lien serait établi, en tout cas.
Apparemment, oui.
Ça vous donne un espoir de savoir ce qui s'est passé?
Bon, à la fois, ça me donne un espoir. À la fois, ça me rassure pas. Parce que si c'est vraiment Le Landais, hélas, j'ai peur, quoi. Mais bon, moi, je veux pas croire qu'Éric soit plus de ce monde. Et je garde toujours espoir. Pour moi, il est vivant. Et il n'y a rien à faire. Je veux pas autrement.
Alors, il faut rester très prudent, évidemment, Guillaume Chiez. Quel est ce lien?
Alors, selon le compagnon du disparu que vous venez d'entendre, il s'agit d'un nom écrit sur un carnet d'adresses qui appartient à Nordal Le Landais. Ce nom, c'est celui d'un cousin d'Éric Fauré, un cousin que le disparu ne fréquentait pas régulièrement. D'ailleurs, son compagnon ne le connaissait même pas, mais ce nom retrouvé dans les affaires de Le Landais intrigue les enquêteurs. Ce n'est évidemment pas suffisant pour impliquer l'ancien militaire, mais il permet aux gendarmes de continuer à creuser sur la disparition d'Éric Fauré. La dernière trace de vie du quadragénaire remonte au 16 septembre 2016. L'homme est aperçu sortant d'une boulangerie de Chatuzange-le-Goubet, au nord de la Drôme. Nordal Le Landais vit à seulement 100 km de là. Mais là encore, pas suffisant pour l'impliquer. Seule l'enquête approfondie permettra de retenir ou d'écarter la piste Le Landais dans la disparition d'Éric Fauré.
Guillaume Chiez du service police-justice de la première radio de France. Dans un instant, la suite de RTL midi, 12h41. Bon appétit à vous tous. On revient sur la grève un peu moins suivie à la SNCF. A tout de suite.
RTL midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Emmanuel Macron a bien atteint sa cible hier. 6 400 000 personnes ont suivi son interview au 13h de TF1, soit un téléspectateur sur deux. Le JT s'offre au passage son meilleur score depuis 2009. Le président, pédagogue mais ferme, a promis de ne rien lâcher sur la SNCF. Et pourtant, les lignes sont peut-être en train de bouger. Alors que la troisième salve de grève a démarré hier soir avec une mobilisation en retrait, Laurent Berger de la CFDT a évoqué ce matin sur RTL des avancées.
Les cheminots CFDT ont reçu hier un courrier de la ministre qui montrait que sur la question de l'ouverture à la concurrence, il y avait eu quelques avancées avec la prise en compte d'amendements portés par les cheminots CFDT, notamment sur la question du volontariat, lorsqu'il y aura un opérateur autre que la SNCF et la possibilité de passer à cet opérateur par volontariat, le fait d'avoir la portabilité des droits, un certain nombre de droits qui seront portables.
Donc conserver ces droits tout en changeant éventuellement d'employeur.
Voilà. Mmh. Et puis sur la capacité, lorsqu'il y a une défaillance de l'opérateur en question, d'avoir une possibilité de droit de retour.
En quelque sorte une réintégration.
Oui, une possibilité de droit de retour, en tout cas de réintégration.
Voilà, Laurent Berger avec Yves Calvi ce matin sur RTL. Éric Vanier, vous êtes notre spécialiste ferroviaire. Est-ce que ça peut changer la donne, vraiment?
Alors, ça change la donne dans la mesure où c'est la première fois que l'on entend dans la bouche d'un responsable syndical qu'il y a eu des avancées, alors que jusque-là, le discours c'était « rien ne bouge, la concertation fait du surplace, elle ne sert à rien ». C'est donc un changement de ton, une évolution dans l'approche du dossier, avec sous-entendu ce message au gouvernement « donnez-nous d'autres garanties sur le statut, par exemple, et nous saurons le reconnaître ». Cela dit, sur le fond, il n'y a rien de très neuf. Les concessions, les garde-fous qui vont accompagner l'ouverture à la concurrence, la ministre des Transports les avait faites oralement dès la fin du mois de mars. Mais c'est vrai que depuis, Elisabeth Borne s'est engagée solennellement dans une lettre à respecter sa parole et les engagements gouvernementaux ont commencé à être transposés par écrit dans la loi. Maintenant, est-ce que ça va suffire à régler le conflit? Non, évidemment, pas dans l'immédiat en tout cas. Laurent Berger et la CFDT ont juste entrouvert une porte pour montrer le chemin à suivre si l'on veut en terminer avec la grève.
RTL midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Les magies des lignes téléphoniques, normalement ça devrait marcher. Nous sommes en direct avec notre invité Roger Dylan Seguer. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Voilà, nous entendez, c'est bien l'essentiel. Bien. Secrétaire général UNSA Ferroviaire, deuxième force syndicale à la SNCF. On va bien sûr s'arrêter sur ce troisième épisode de grève. Laurent Berger de la CFDT, vous l'avez entendu ce matin sur RTL, parle d'avancée. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous êtes vous aussi à ce point optimiste?
Alors l'optimisme, il n'est pas tout à fait de rigueur. Je veux dire, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on est face à une mutation historique du système ferroviaire en France. Mmh. Et là, le gouvernement s'attaque à un nouveau pacte ferroviaire. Et pour l'UNSA ferroviaire, nous, on demande clairement que ce nouveau pacte ferroviaire s'accompagne d'un nouveau pacte social ferroviaire. Et cette mutation historique, elle pourra être... elle pourra pas se construire à l'encontre du cours social ferroviaire.
Mais pour en revenir aux amendements dont parlait Laurent Berger sur le volontariat pour aller vers un nouvel opérateur, sur un droit de retour à la SNCF, est-ce que vous aussi vous considérez que ce sont des avancées concrètes ?
Donc nous également, dans le cadre de notre politique contractuelle, l'UNSA Ferroviaire mène cette politique contractuelle depuis un moment. Je veux dire, on a également déposé près d'une dizaine d'amendements et on a eu des réponses. J'ai moi-même participé en tant que spectateur naturellement, mais à l'Assemblée nationale au débat sur le sujet. Et effectivement, il y a eu des points qui ont été actés dans la loi sur les sujets évoqués par M. Berger. J'ai moi-même été destinataire d'un courrier de Mme la ministre ce matin. Donc effectivement, des points sont actés, mais en fin de compte, on est très 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 loin du compte. Les points actés sont des points législatifs et la couverture sociale, le pacte social s'inscrit dans un domaine bien plus large. S'il y a la loi, oui, il y a la convention collective, il y a les accords d'entreprise. Et aujourd'hui, en réponse à ce courrier, et pour sortir de cette ornière dans laquelle on semble tous s'enfoncer, l'UNSA Ferroviaire demande expressément aux trois niveaux de dialogue dans le cadre de la hiérarchie des normes, donc au ministère, à l'UTP, mais également à la direction de la SNCF, on demande un accord de méthode, un accord de protocole de méthode qui définira où et quand on va négocier les choses et dans quel agenda.
Mais c'est pas gagné, donc on l'entend bien, Roger Dillessinger. Ça veut dire qu'on peut pas dire aux auditeurs qui nous écoutent et aux usagers, ça va s'arrêter prochainement, c'est en bonne voie.
Mais les accords, les conventions collectives, ça peut pas s'arrêter, ça peut pas se définir en une semaine. Là, on est dans un rythme effréné. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment une méthode, un protocole d'accord où toutes les parties prenantes s'engagent sur un calendrier, sur un contenu et un agenda social du secteur. On est là en train de construire l'avenir du ferroviaire. Ça ne peut pas se régler en 8 jours.
Merci à vous de nous avoir accompagnés dans RTL Midi. Roger Dillessinger, secrétaire général UNSA Ferroviaire.
La justice se mêle concrètement aujourd'hui de l'héritage de Johnny Hallyday. Dans une heure, le tribunal de Nanterre doit rendre son tout premier arbitrage. Il se prononcera sur le gel des biens du chanteur et les droits de regard sur son ultime album, demandé par David et Laura. Jean-Alphonse Richard, quels sont les scénarios possibles ?
Alors, tout simplement, si le tribunal valide le point le plus important, c'est-à-dire la mise sous séquestre des biens immobiliers du chanteur, eh bien ce sera évidemment une victoire pour Laura et David. Ils auront réussi à enrayer la machine de la succession. La procédure aura alors toutes les chances de se poursuivre devant une autre juridiction civile qui cette fois se penchera plus précisément sur les modalités de l'héritage Johnny. Procédure qui pourrait prendre plusieurs années, sauf si les parties trouvent un consensus. Pas à l'ordre du jour pour le moment, nous affirment ce matin les avocats des deux camps. Deuxième cas de figure, c'est le rejet de la demande. Le tribunal jugeant par exemple qu'il n'y a aucune urgence à geler les biens, les avocats de Laura et David pourront faire appel ou se tourner directement vers la juridiction chargée de trancher l'héritage. Impossible de dire à ce stade combien d'épisodes connaîtra encore le feuilleton de l'héritage Johnny.
Et c'est à Nanterre cet après-midi. Merci Jean-Alphonse Richard. À l'occasion des départs en vacances de printemps de la zone C à partir de cet après-midi, c'est-à-dire de l'Île-de-France, de Montpellier ou encore de Toulouse, nous avons voulu revenir sur la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. C'est à partir du 1er juillet, Emmanuel Macron confirme que la mesure entrera bien en vigueur, mais il a fait une ouverture hier en direction des contestataires. Il s'agira seulement d'un test sur 2 ans. Alors Christophe Bourou, c'est un « je vous ai compris » mais qui fondamentalement ne change rien. Pour preuve, il y aura une nouvelle mobilisation nationale ce week-end.
Oui, à l'appel d'associations d'automobilistes, de motards, avec à la clé des opérations escargots et des défilés un peu partout en France, car pour les opposants, Emmanuel Macron ne les a pas écoutés. La mesure est confirmée, alors que près de 8 Français sur 10 y sont opposés, même si le chef de l'État a répondu à la demande de beaucoup d'élus, à savoir si la mortalité n'a pas reculé dans 2 ans, eh bien la mesure sera abandonnée et l'État laissera la main au département.
Alors les détracteurs accusent le gouvernement de vouloir récolter 335 millions d'euros de plus sur le dos des automobilistes. Le chef de l'État a promis d'affecter cette somme aux victimes de la route.
Alors oui, 335 millions, c'est la somme que pourrait rapporter le millier de radars automatiques installés sur 400 000 km de route. C'est une façon de faire taire la polémique, radar, pompe à fric. Le gouvernement, lui, pense que 400 vies seront épargnées grâce à cette mesure.
Christophe Bourou, alors si vous faites partie de ceux qui manifesteront ce week-end contre le 80 km/h, ou si vous êtes un usager de la route, vous êtes les bienvenus, pas convaincus par les propos à ce sujet d'Emmanuel Macron hier. Vous témoignez, vous nous appelez, vous argumentez, ça se passe au 3210 321-0.
La Tour Eiffel fermée au public aujourd'hui, sachez-le, le personnel chargé de la sécurité est en grève, mais les jardins et le parvis autour de la vieille dame restent accessible aux visiteurs.